France Musique. Arabesque par François-Xavier Chemchak.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Maël Larfassor, Emmanuel Dupuis et Olivier Dehaye. Voici la quatrième émission de notre série consacrée à Désiré Émile Engelbrecht, fondateur de l'Orchestre National dont il était question à l'instant, puisque oui, l'Orchestre National de France fait sa rentrée en ce 17 septembre 2020, jour du 140e anniversaire de la naissance de celui qu'on appelait Engel. Engelbrecht qu'on va retrouver aujourd'hui dans Pelléas et Mélisande de Debussy, mais également dans le Pelléas de Gabriel Fauré, dans Pénélope de Gabriel Fauré avec Régine Crespin, Raoul Jobin. Il y aura la mère de Debussy, Daphnis et Chloé de Ravel ou encore le prince Igor de Borodine. Nous allons commencer avec une œuvre phare du répertoire, c'est Carmen, que Engelbrecht dirigeait en 1942 à Marseille à la tête de l'Orchestre National. Une Carmen chantée par Germaine Cernet. Et c'est la Habanera, je vous propose d'écouter. Comment on ne doit pas interpréter Carmen, Faust et Pelléas? Voilà le titre d'un livre d'Engelbrecht qui disait, je cite, au début de la Habanera, on eut longtemps l'habitude à l'opéra comique de faire attaquer forte les violoncelles, puis de les faire diminuer ensuite jusqu'à l'entrée du chant, façon détournée de donner la note aux Carmen indécises, mais sûr moyen de supprimer l'atmosphère de curiosité attentive que peuvent créer ces trois mesures d'introduction jouées simplement pianissimo. Allez donc reprocher aux chefs étrangers les libertés qu'ils prennent avec les textes de nos auteurs.
Thank you.
Dès son attaque, notre prima donna le plus souvent travestira en polka le rythme de habanera. Elle appuiera sur la première croche des triolets plutôt que de passer prudemment un peu trop tôt à la seconde. L'orchestre ne manquera pas de l'imiter et de même les chœurs qui peu après se débarrasseront sans vigueur ni mesure de leur prangardatoire. Enfin, plus tard, les cigarières en disparissant alourdiront les doubles croches de leur refrain au point d'en rendre ternaire les temps forts ou même quelquefois d'adapter uniformément une croche à chaque syllabe. Voilà un autre extrait de cet ouvrage de 1933 au titre étonnant « Comment on ne doit pas interpréter Carmen Faust Pelleas » signé Désiré-Émile Engelbrecht qui en ce 9 novembre 1942 dirigeait à Marseille l'Orchestre National pour accompagner la Carmen de Germaine Cernet. Un enregistrement dans lequel on peut entendre également le Don José de Raymond Berthaud et l'Escamillo de Lucien Lovano. L'Orchestre National, après un séjour à Rennes au moment de l'Exode, s'était installé à Marseille, non sans avoir écarté des rangs les musiciens juifs. Et la vie continuait, nous l'avions évoqué en écoutant le Roi 10 avec Gaston Micheletti lors d'une précédente émission. Alors revenons aux années 60, c'est juste un an avant sa mort, le 3 mars 1964, qu'Engelbrecht dirige de la musique russe. Une fois n'est pas coutume, on l'avait entendu diriger un Boris Godounov de Moussorgski francophone, ainsi qu'un vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Et bien voici de Borodine les célébrissimes danses polovtsiennes qui nous permettent de retrouver l'équipe de la radio, direction Engelbrecht.
Thank you. Bye.
Depuis peu, 1964, la RTF Haute Fidélité est devenue France Musique. Et depuis peu, eh bien, la radio-télévision française est devenue l'ORTF, Office de Radio-Télévision Française, en 1964. Tandis que Désiré Émile Engelbrecht dirigeait, comme on vient de l'entendre, l'Orchestre National de l'ORTF. Et le chœur de l'ORTF était préparé par Jeanne Baudry-Godard dans cette version francophone du Prince Igor d'Alexandre Borodine, dont nous écoutions les célébrissimes danses polovtiennes.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Retour à Pelléas et Mélisande pour la quatrième fois. Nous suivons l'avancée de cet opéra, dont voici le début du quatrième acte. On a entendu lundi une version de 1951 à Londres avec le couple Camille Moran-Suzanne Dancaux. Mardi, c'était en 52 à Paris avec le même couple. Hier, 1962, le couple Micheline Granchet et Jacques Janssen. Et bien en 63, comme on vient l'entendre, on change encore de couple avec deux des protagonistes que je viens de signer. C'est Camille Moran, cette fois-ci, qui rejoint Micheline Granchet pour ce duo du début du quatrième acte avec l'Orchestre National de l'ORTF dirigé par Engelbrecht.
Ce soir te verrai-je. Je sors de la chambre de mon père. Il va mieux. Le médecin nous a dit qu'il était sauvé. Il m'a reconnu. Il m'a pris la main et il m'a dit de cet air étrange qu'il a depuis qu'il est malade. Est-ce toi, Pelléas? Tiens. Je ne l'avais jamais remarqué, mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps. Il faut voyager, il faut voyager. Étrange, je vais lui obéir. Ma mère l'écoutait et pleurait de joie. Tu ne t'en es pas aperçu, toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher. Écoute, j'entends parler derrière cette porte. Vite, vite, réponds vite, où te verrai-je?
Où veux-tu?
Dans le parc, près de la fontaine des aveugles. Veux-tu, viendras-tu? Ce sera le dernier soir. Je vais voyager comme mon père l'a dit. Tu ne me verras plus.
Ne dis pas cela, Pelléas. Je te verrai toujours. Je te regarderai toujours.
Tu auras beau regarder, je serai si loin que tu ne pourras plus me voir.
Tu n'arriveras pas, Pelléas. Je ne comprends plus ce que tu dis.
Va-t'en, séparons-nous. J'entends parler derrière cette porte.
Un peu de soirée, on t'offre. t'observais. Tu étais là, insouciante peut-être, mais avec l'air étrange et égaré de quelqu'un qui attendrait toujours un grand malheur. Restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je me t'ai embrassé une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Et cependant, les vieillards ont besoin quelque de la vie et éloigner un moment les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres?
I never pas que tu me touches, entends-tu, va-t'en. Je ne te parle pas, où est mon épée? Je venais chercher mon épée.
Ici, sur le prie-dieu.
Apporte-la. Combien encore de trouver un paysan mort de feu, le long de la mer. On dirait qu'ils tiennent tous à mourir sous nos yeux. Eh bien, mon épée. Pourquoi tremblez-vous ainsi? Je ne l'ai pas vous tuer. Je voulais simplement examiner ma lame. Je n'emploie pas l'épée à ses usages. Pourquoi m'examinez-vous comme un pauvre? Je ne viens pas vous demander l'aumône. Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux sans que je voie dans les vôtres. D'être riche, je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence, ils sont plus grands que l'innocence.
En 1963, Jacques Mars chantait le rôle de Golo, tandis qu'André Vessière était Arkel, le vieil Arkel. Pelléas et Mélisande, chantés par Camille Moran et Micheline Grancher, avec l'Orchestre National de l'ERTF, dirigé par Désiré Émile Engelbrecht. Engelbrecht, dont je lisais hier un témoignage de cette époque de 1902, de la création de Pelléas, où il avait été un fervent défenseur, de, notamment avec Florent Schmitt, à qui nous rendrons hommage dans quelques jours, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Florent Schmitt. Il y avait bien sûr des défenseurs et des détracteurs de ce qu'on appelait de façon moqueuse pédéraste et médisante. On parlait également au sujet d'un personnage secondaire, le petit Ignold, du petit ignoble. Alors voici pour rendre hommage à la grande Maddy Mesplet qui était disparue le 30 mai dernier, ce fameux petit personnage, ce compagnon des brebis et des moutons qu'on entend notamment dans le quatrième acte de Pelléas, ici dans une version de 1958, toujours avec l'Orchestre National et Engel.
passer par ici. Je vais les voir de près. Comme il y en a.
Maddy Mesplé en 1958 avec l'Orchestre National et Désiré Milingel-Brecht dans ce quatrième acte de Pélias et Mélisande. On retrouvera ce Pélias de Debussy demain dans un dernier extrait qui va nous permettre de retrouver le couple Camille Moran et Suzanne Dancaux. Alors Debussy a été le premier compositeur à s'intéresser à ce Pélias et Mélisande de Maeterlinck qui avait été créé, la pièce de théâtre symboliste avait été créée à Paris en 1893 au Théâtre des Bouffes Parisiens, et Debussy va écrire dans ses années 90, sa partition qui ne sera créée qu'en 1902, mais la composition date bien des années 1890. Ensuite, il y aura d'autres compositeurs qui proposeront leur Pelléas et Mélisande, comme Arnold Schoenberg, comme Jean Sibelius ou encore Gabriel Fauré, qui a écrit une musique de scène pour des représentations de ce Pelléas avec la complicité orchestrale de Charles Quéclin. Musique de scène de 1898 que nous allons attendre maintenant, toujours sous la direction de Désiré Émile Engelbrecht, mais on change d'orchestre, ce n'est plus national. En décembre 1954, voici l'orchestre du Théâtre des Champs-Élysées.
Thank you. Thank you.
décembre 1954, Désiré Millin-Gelbrecht dirigeait l'orchestre du Théâtre des Champs-Élysées dans cette suite de concerts Pelléas et Mélisande opus 80 de Gabriel Fauré.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous restons avec Gabriel Fauré, mais revenons à l'Orchestre National pour un concert donné le 24 mai 1956 autour de l'opéra Pénélope de Gabriel Fauré. Opéra qu'on entend trop peu et qui comporte vraiment des merveilles sur ce livret de René Fauchois qui bien sûr s'inspire de l'Odyssée. Ulysse revient dans son île d'Ithaque et il massacre les prétendants et retrouve Pénélope. C'est la scène finale, je vous propose d'entendre, de cet opéra créé en 1913 et qui nous permet de retrouver la voix de Régine Crespin aux côtés du ténor québécois Raoul Jobin.
Oh!
24 mai 1956, l'Orchestre National de l'ORTF dirigé par Désiré Émilin Galbrecht accompagnait les voix de Régine Crespin et de Raoul Jobin dans les rôles de Pénélope et d'Ulysse dans le final de Pénélope de Gabriel Fauré. Une partition qu'au même moment, Désiré Émilin Galbrecht défend dans un livre qui s'intitule « Le chef d'orchestre parle au public ». On compare Pélléas et Mélisande de Debussy et ce Pénélope de Fauré. En choisissant la pièce de Maeterlinck, Debussy avait jeté son dévolu sur le plus vivant des trois petits drames pour marionnettes, ainsi nommé à l'origine, celui dont l'action ne serait jamais retardée par de longs monologues ou des duos statiques. Paul Dukas, plus tard, choisissant à son tour Ariane et Barbe Bleue, n'y trouverait pas les mêmes avantages. Sa partition devait retomber dans la stagnation scénique de Tristan, comme la future Pénélope. Il est d'ailleurs surprenant que le public, dont l'engouement persiste pour Wagner, demeure encore indifférent à des partitions comme Pénélope. C'est donc moins de Pélléas que de Tristan qu'on peut rapprocher le chef-d'œuvre de Gabriel Fauré. Fin de citation. Et voici maintenant la suite de La Mer dont nous écoutions le premier mouvement hier, toujours avec l'Orchestre National et Engelbrecht. C'est Jeu de vague que voici maintenant.
Thank you.
peut dire que les musiciens de l'Orchestre National ont du sang bleu puisqu'ils ont la mer de Debussy dans les veines. On entendait ici Jeu de vagues avec cet Orchestre National de la Radiodiffusion Française dirigé par Désiré Émile Engelbrecht.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'ai eu l'occasion de vous lire quelques extraits de livres signés Engelbrecht, Désiré Émile, mais également Engelbrecht Germaine, puisque son épouse a été sa collaboratrice pour certains de ses livres. Elle lui a même consacré tout un ouvrage qui est intitulé Désiré Émile Engelbrecht en son temps et son temps. Un ouvrage dans lequel il y a un poème en alexandrin signé Germaine, avec toute l'humilité de l'épouse qui témoigne pour son mari. Engel, c'est le titre de ce poème dont voici les premiers vers. Engel, ce nom charmant, ce nom où vole une aile, ce nom doucement clair, ce nom joyeux, léger, ce nom qui rêve et puis qui soudain étincelle, que la musique habite et qui semble danser. Il chante son esprit, il chante sa personne, sa rapide vigueur, son cœur toujours fervent, l'exemple merveilleux qu'infatigable il donne, d'une foi sans pareille en son art triomphant. 21 décembre 1953 au théâtre Apollo à Paris, Désiré Émile Engelbrecht dirigeait le chœur et l'orchestre national de la radiodiffusion française dans Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, dont nous écoutions la troisième partie. Désiré Émile Engelbrecht, né il y a 140 ans jour pour jour, chef d'orchestre avant tout, mais aussi compositeur, ayant écrit en 1905 un album pour piano à quatre mains intitulé La Nurserie autour de quelques chansons bien connues comme celle-ci. J'ai descendu dans mon jardin. Boris Nedeltchev et Michel Rabeau côte à côte pour un extrait de la Nurserie d'Engelbrecht. J'ai descendu dans mon jardin à l'instant, une poule sur un mur. Rendez-vous donc ce soir avec Richard Strauss et Robert Schumann pour la rentrée de l'Orchestre National. Et après une poule sur un mur, voici un coq sur son perchoir qui ricane derrière son micro.
Oui, parce que vous me faites rire avec votre amour.
Mais c'est l'amour, c'est l'amour qui m'inspire.
Bien sûr, je sais bien. C'est Johnny Hallyday qui est toujours amour.
Oui, c'est vrai.
C'est la poule sur le mur. Bon, bref, passons. Demain, on termine avec une gueule, hein, c'est ça, hein?
Absolument. Symphonie Sevenol de Dindy, Tannhäuser de Wagner, oui. Péléas, La Mère de Bussy, et puis Ma Mère Loi de Maurice Ravel.
Ce sera la suite et la fin donc de ce feuilleton Désiré Émile Engelbrecht par François-Xavier Chomchak.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.